Le journal, bonjour Laurence Thomas.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, un peu de répit pour les franciliens. L'UNSA RATP a décidé hier de mettre fin à la grève illimitée, mais le syndicat réfléchit désormais à d'autres actions pour protester contre la réforme des retraites. Les autres titres, Laurence.
La politique et les municipales à Paris, Cédric Villani reçoit le soutien du Parti radical de gauche, le PRG. Et le PS étaient alliés depuis près de 40 ans dans la capitale. Un petit coup dur pour Anne Hidalgo. À l'avant-veille de l'examen au Sénat du projet de loi bioéthique dont l'ouverture de la procréation médicalement assistée, la PMA, ouverte aux lesbiennes et aux femmes célibataires, eh bien les opposants au texte seront dans les rues de Paris aujourd'hui. Et puis dans ce journal, nous irons au Royaume-Uni où le couple Harry-Meghan renonce à son titre d'altesse royale, conclusion d'une crise de 10 jours à Buckingham.
Les invités de la matinale à 7h50, l'écrivain Régis Geoffrey pour son livre Papa, et 8h20, le journaliste Charles Anderlin pour son dernier livre Les Juifs de France, entre République et sionisme.
France Inter. La grève à la RATP suspendue dès demain sur 12 des 14 lignes de métro non automatique. C'est ce qu'a voté la majorité des conducteurs réunis en assemblée générale après 46 jours de grève illimitée. Ils ont décidé de réorienter le mouvement pour s'engager vers d'autres formes d'action. Annonce faite hier par le syndicat majoritaire UNSA RATP. Manuel Ruffez.
En assemblée générale, les grévistes ont dit deux choses. Un, qu'il fallait poursuivre le mouvement. Deux, qu'il fallait trouver d'autres formes d'action. Jacques Eliès de la CGT RATP.
Tout le monde peut comprendre qu'après 5 semaines d'action, de grève, et donc c'est autant de pertes de salaire, hein, c'est plus d'un mois, un mois et demi de pertes de salaire à l'heure où on se parle, qui va être sur les feuilles de paye des agents de la RATP, tout le monde peut comprendre qu'on a besoin de temps de respiration pour nous permettre d'être tout aussi forts à des moments plus ponctuels.
Donc aujourd'hui, il s'agit de se mobiliser pour les grandes journées d'action nationale, à moins que, comme le réclament les syndicats de la RATP, les grandes confédérations arrivent à s'entendre pour relancer un mouvement massif et coordonné. Laurent Djebali de l'UNSA RATP.
À partir du moment où on fait partir, vous savez, une semaine les docteurs, une semaine les carburants, une semaine les routiers, effectivement, on peut dire que tout le monde est en grève, mais pas tout le monde est en grève au même moment. Donc à un moment donné, on demande de réorganiser, on demande que tout le monde parte en grève, et si vraiment les confédérations combattent cette réforme, eh ben on s'y met tous, et on s'y met tous au même moment.
Après une grève d'une durée inédite, les syndicats sont à la recherche d'un nouveau souffle pour poursuivre malgré tout la mobilisation.
Manuel Ruffez contre la réforme des retraites, contre Emmanuel Macron, contre les policiers. Quelques milliers de gilets jaunes ont défilé hier après-midi à Paris, un rassemblement marqué par des tensions avec les forces de l'ordre. 59 personnes ont été interpellées. Lui, il était remonté contre le chef de l'État vendredi soir, le journaliste et militant Tahawaf. Il avait signalé sur Twitter la présence d'Emmanuel Macron dans un théâtre parisien. Il avait relayé un appel à perturber la soirée. Interpellé dans un premier temps, il est ressorti libre de sa garde à vue, sans être mis en examen. La juge d'instruction a toutefois décidé de placer cet homme de 22 ans sous le statut de témoin assisté. C'est l'intermédiaire entre la mise en examen, et le statut de simple témoin. Un texte qui fait polémique et que l'on avait presque oublié, le projet de loi bioéthique. Ce texte, adopté en octobre dernier à l'Assemblée, arrive au Sénat la semaine prochaine. Il prévoit entre autres l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe. C'était un engagement de campagne du candidat Macron, mais la Manif pour tous, Alliance Vita ou encore la Confédération nationale des associations familiales catholiques estiment que la ligne rouge a été franchie en matière de bioéthique et ils vont manifester ce dimanche à Paris. La présidente de ce collectif, Pascale Morinière, au micro de Sébastien Sabiron.
Ce que nous voulons faire, c'est pousser un cri d'alarme et d'alerte, dire qu'on est en train d'organiser la production artificielle et industrielle de la personne humaine. La commercialisation de l'humain, elle n'est pas prévue, mais elle est implicite parce que tous les pays qui ont ouvert la PMA à toutes les femmes ont toutes eu besoin de soit d'acheter du sperme, soit de rétribuer les donneurs de sperme. Et donc, on va devoir y venir. Tous les pays, la Belgique, tous ces pays-là, ils se sont mis à rétribuer les donneurs systématiquement. Donc je ne vois pas comment la France fera. Elle devra acheter du sperme à l'étranger ou elle devra rétribuer ses donneurs. Ça s'appelle du commerce. Chaque petit pas est tout petit et finalement on s'y habitue. Et de glissement en glissement, on arrive à des grands changements. Et c'est contre ça qu'on alerte. C'est pour ça qu'on appelle à un état d'urgence bioéthique pour prendre les choses en compte.
Pascale Morinière, la présidente de la Confédération nationale des associations familiales catholiques.
Un coup dur pour Anne Hidalgo, la candidate socialiste à la mairie de Paris.
Cédric Villani, candidat dissident de La République En Marche pour les municipales, a reçu hier le soutien du Parti radical de gauche. Le PRG et le Parti socialiste étaient pourtant alliés depuis près de 40 ans dans la capitale. Benjamin Mathieu.
Ils étaient alliés avec le Parti Socialiste depuis près de 40 ans et avec l'actuelle majorité municipale depuis l'élection de Bertrand Delanoë en 2000 ans. Mais pour les prochaines municipales, le parti de centre-gauche a finalement décidé de couper les ponts en rejoignant Cédric Villani. On le regrette, même si ce n'est pas un enjeu stratégique, réagit Rémi Ferraud, premier secrétaire de la Fédération PS à Paris. Pour le parti centriste, c'est un bon coup en tout cas, car l'équipe de Cédric Villani leur fait de la place. Assia Meda, qui devait être tête de liste avec Paris en commun, le mouvement d'Anne Hidalgo dans le 8e arrondissement, se retrouve désormais tête de liste dans le 17e face à Benjamin Griveaux et avec les couleurs donc de Cédric Villani. Cet accord permet à l'équipe du mathématicien de montrer que l'espace central, c'est désormais lui qui l'occupe. Pour un de ses proches, Anne Hidalgo se déporte et n'incarne plus que la gauche de la gauche.
Relancer le processus de paix en Libye, c'est ce que vont essayer de faire aujourd'hui les principaux pays impliqués dans le conflit qui déchire le pays depuis des années et éviter que la guerre civile ne se transforme en deuxième Syrie. L'Allemagne, pays hôte du sommet, et les Nations Unies espèrent convaincre la Russie, la Turquie, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte de pousser les belligérants à accepter une trêve durable à Tripoli. Tapis rouge pour
le Made in France.
Le fabriqué en France s'expose à l'Élysée jusqu'à ce soir. Un coup de projecteur sur ses exposants venus de 101 départements de métropole et d'outre-mer. Des lauréats sélectionnés parmi de nombreuses candidatures. Reportage à l'Élysée de Flora Midi.
Un exosquelette, des cornichons ou encore des espadrilles en plastique recyclé, ces produits ont un point commun, être fabriqués en France, et ça fait la fierté de ce visiteur de l'exposition.
On est assez fiers d'être français. Je suis très attiré par tout ce qui est médical, exosquelette. Il faudrait que ce soit un peu plus connu du public.
Se faire connaître justement, c'est l'objectif de ces exposants. Ils sont 120 sélectionnés parmi 1750 candidatures. Jérôme Perminja dirige la plus vieille bonnetterie bretonne encore en activité.
D'être là aujourd'hui, ça prouve que dans les plus hautes instances de l'État, le savoir-faire français est reconnu, est mis en avant et mis en valeur.
Un peu plus loin trônent des objets du quotidien, tantôt pratiques avec cet accessoire venu de Cherbourg.
J'ai trouvé le parapluie anti-bourrasque dont je rêve. J'en ai assez de ces parapluies qui se retournent avec le vent.
Tantôt surprenant comme ce radiateur connecté fabriqué dans l'Aisne et représenté par Éric Baudry.
Un appareil de chauffage électrique n'a pas forcément ce format-là.
On dirait un peu une télévision.
Exactement, on a beaucoup de questions depuis ce matin.
La visite se termine sur le parvis de l'Élysée avec un vrai pupitre de conducteur de train français adoré des enfants.
Bonjour à tous, bienvenue dans le train.
Terminus 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, l'exposition attend 10 000 visiteurs jusqu'à ce soir.
C'est Flora Midi, ça nous a bien plu le parapluie anti-bourrasque.
Faut tester ça.
Voilà, au Royaume-Uni. Le divorce est prononcé entre la couronne et le couple Harry et Meghan. 10 jours de crise à Buckingham auront scellé leur avenir. Le couple quitte l'Europe pour l'Amérique et renonce à tous ses privilèges. Laura Elkheim.
Plus de titres royaux, plus d'argent public. L'annonce fait ce matin la une des journaux du pays. Dans un communiqué, le palais de Buckingham a annoncé que le duc et la duchesse de Sussex n'utiliseront plus leurs titres d'altesse royale et cesseront de recevoir des fonds publics. Ils habiteront une partie de l'année en Amérique du Nord et rembourseront même les travaux de rénovation de leur résidence à Windsor. Tout commence le 8 janvier dernier lorsque Meghan et Harry annoncent qu'ils renonçaient à leur rôle au sein de la famille royale. La presse britannique s'emballe, crime de lèse-majesté. La famille royale voulait régler la situation le plus rapidement possible pour préserver son image. La reine Elisabeth s'est voulue rassurante, soulignant que Harry, Meghan et leur enfant Archie resteront des membres très chers de la famille. Ce statut inédit réclamé par le couple est en grande partie dû aux difficultés d'être exposé à la pression médiatique et aux tabloïds qui scrutent et analysent chacun de leurs faits et gestes. Londres, Laura Elkheim, France Inter.
Et on retrouve Éric Delvaux pour la suite du 6-9.
Merci Laurence Thomas pour le journal.